Les ministres ont fait le point sur les retombées des accords commerciaux avec l'Europe, avec les pays de la zone Asie-Pacifique et avec les États-Unis et le Mexique. Les difficiles relations avec la Chine ont aussi été discutées.
Nous avons reconnu la nécessité de continuer à soutenir le commerce international et la diversification des marchés. Particulièrement, nous continuerons à travailler pour résoudre les problèmes d'accès aux marchés, dont les marchés chinois pour le canola et la viande.
À l'issue de la conférence ministérielle, je me suis entretenu avec la ministre d'Agriculture et Agroalimentaire Canada, Marie-Claude Bibeau. Madame Bibeau, bonjour.
Bonjour.
Madame Bibeau, vous avez parlé de la Chine, vous avez parlé des difficultés commerciales et tout ça. Est-ce que dans les discussions actuellement, vous avez des indices, des indications, des signes positifs qui vous permettent de croire que ça peut venir qu'à débloquer, mais assez rapidement?
J'ai des signes positifs pour le marché de la viande. C'est plus difficile pour le canola. Probablement parce que c'est plus facile de substituer le canola que de remplacer le porc en ce moment, sachant que la fièvre porcine africaine les affecte là-bas. Alors, du porc de grande qualité comme ce qu'on peut offrir ici au Canada est définitivement en demande. Alors, le fait qu'on a des discussions quasi quotidiennes, tous les jours presque, avec les autorités chinoises sur le dossier des viandes, c'est encourageant. Ceci étant dit, leurs processus sont toujours un peu longs, mais c'est vraiment là où il y a une différence, il y a un signe d'espoir.
Autre sujet, le guide alimentaire canadien. Bon, on est en période politique assez chaude. La campagne électorale officielle va commencer bientôt. Et déjà, par exemple, du côté conservateur, on dit que le guide alimentaire, c'est pas convenable et que certains producteurs sont défavorisés et qu'on voudrait changer ça. Le guide alimentaire, selon vous, doit-il rester tel qu'il est?
Absolument. Les conservateurs et M. Scheer sont fidèles à eux-mêmes dans leur approche. Nous, on a choisi de consulter largement la population. Il y a des milliers d'intervenants qui ont pris la parole pour le guide alimentaire et c'est basé sur la science. Et aussi, l'objectif ultime, c'est la santé des Canadiens. Donc, ce n'est pas une tendance ou des croyances, mais c'est vraiment la science qui nous dicte qu'est-ce qui doit être le mieux pour la santé des Canadiens. Et ultimement, ça a un impact sur notre système de santé. Donc, c'est la bonne santé de la population, mais aussi la bonne santé des finances publiques dans quelques années.
Il n'y a pas de bannissement dans le guide alimentaire canadien. On propose l'équilibre.
Oui, je pense que c'est toujours la recherche de l'équilibre. Les produits laitiers, dont on a beaucoup parlé quand on a sorti le guide canadien, sont présents. Il y a plein de petites recettes, d'ailleurs, qui sont suggérées pour les mettre en valeur. Alors, l'idée, c'est vraiment de valoriser les différentes protéines, entre autres, mais de bien équilibrer notre alimentation. Alors, on apprend au fil des ans et ces nouvelles connaissances-là sont exprimées dans le nouveau guide alimentaire canadien.
Toute dernière question, là. Les compensations, les producteurs sont impatients, ça s'en vient?
Oui, ça s'en vient. Je comprends leur impatience, je comprends, je la partage. Alors, notre engagement est très, très ferme. On est vraiment dans les technicalités en ce moment. On parle de distribuer quelques milliards de dollars à des milliers de producteurs à travers le pays. Chacun des groupes laitiers, volailles, œufs, ont fait des demandes différentes en termes de mécanismes de financement. Alors, on est vraiment dans les technicalités pour pouvoir déployer ces compensations-là le plus rapidement possible et on s'est engagé à le faire avant la fin du mandat.
Merci beaucoup.
Merci.
Bien sûr, Marie-Claude Bibeau parlait des compensations pour les pertes de parts de marché pour les producteurs de lait, surtout, mais également d'œufs et de volailles, à la suite des accords commerciaux avec l'Europe et la zone Asie-Pacifique. Le ministre québécois André Lamontagne co-présidait la rencontre qui avait au menu la gestion de l'offre, la sécurité du revenu, l'innovation et la main-d'œuvre. Il se dit très satisfait de la rencontre.
Au point de vue de la main-d'œuvre, on a eu aussi des échanges. Puis la première des choses, c'est qu'on peut faire des travaux à plus long terme pour chercher à améliorer nos systèmes pour accueillir des nouveaux arrivants et tout ça. Mais il reste qu'à très court terme, il y a des besoins immenses, principalement au niveau des transformateurs. Et puis, on a soumis de concert avec mon collègue de l'Ontario, plus tôt, il y a quelques mois, des propositions au gouvernement fédéral qu'on a partagées avec les collègues. Et puis, on a fait des demandes très simples sur trois allègements administratifs qu'on demande au gouvernement fédéral et puis qu'on demande à Mme Bibeau de se joindre à nous pour demander à ses partenaires fédéraux pour faire en sorte qu'avec des changements qui pourraient être réalisés là, à très, très court terme, des changements administratifs, faire en sorte qu'on pourrait enlever beaucoup de pression sur les besoins en main main-d'œuvre de nos entreprises au Québec, mais partout à l'intérieur du Canada.
J'ai aussi pu m'entretenir avec le ministre Lamontagne. Monsieur André Lamontagne, bonjour.
Bonjour, bonjour, M. Levac.
M. Lamontagne, fin de la conférence fédérale, provinciale et territoriale des ministres de l'Agriculture. Vous avez dit dans votre présentation que beaucoup de points d'accord, bien sûr, quelques points de désaccord peut-être, mais une discussion qui s'est quand même très bien déroulée. Est-ce qu'on parle de sécurité du revenu ou de soutien à certains secteurs lorsqu'il est question de désaccord?
Non, quand je parlais de désaccords, c'est pas vraiment des désaccords, c'est parce qu'on vit des réalités différentes sur nos territoires. On peut pas comparer, exemple, l'agriculture de la Saskatchewan avec l'agriculture du Québec. Alors, nos enjeux qu'on a au niveau du soutien à nos producteurs sont différents. Mais au-delà de ça, là, la volonté, c'est de toujours d'apporter un soutien compétitif, le meilleur soutien à nos agriculteurs en fonction de nos réalités, là.
Des secteurs sont en difficulté actuellement. Le porc, à cause de la Chine, bien sûr, l'interdiction par la Chine de livrer du porc canadien et québécois sur son marché. Bien sûr, il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains d'Ottawa, mais du côté de Québec, qu'est-ce que vous faites actuellement?
Bien, ce qu'on a fait vraiment, puis en même temps, c'était participer avec d'autres, d'autres collègues, là, c'était de faire en sorte qu'on sorte d'ici, et puis le sentiment d'urgence, il est là. Et ce sentiment d'urgence-là, dans un premier temps, il se traduit par la volonté immédiatement de s'asseoir, puis d'évaluer l'impact. Aujourd'hui, au moment où on se parle, l'impact est davantage pour les transformateurs que pour les producteurs. Alors, c'est d'évaluer l'impact. Puis si ça devait perdurer, bien là, le signal, on va l'avoir de l'industrie. Et puis à ce moment-là, c'est de s'assurer que le gouvernement entre en action. Et puis au niveau de ce soutien-là, c'est davantage un soutien là, qui va venir de la part du gouvernement fédéral que de la part du gouvernement provincial. Là.
Parce que la situation devient rapidement critique pour plusieurs producteurs, là. Il y a trop de porc sur le marché, là.
Bien, pour l'instant, la situation, c'est pas les producteurs qui sont affectés par ça, là. C'est au niveau des transformateurs qui doivent se revirer de bord puis trouver des nouveaux marchés. Puis ça, bien, ça se fait pas facilement, là. Mais pour l'instant, les ententes entre les producteurs et nos transformateurs, là, ils vont de l'avant et puis les producteurs produisent et puis les transformateurs accueillent. Et puis là, pour eux autres, le défi, c'est de trouver des nouveaux marchés puis des marchés aussi qui peuvent, si on veut, passer leurs produits d'une façon équivalente qu'il y avait avant avec le marché de la Chine.
Là, je fais un peu de prospective. C'est l'été, les vacances, pas pour les agriculteurs, bien sûr, un peu moins aussi pour le ministre de l'Agriculture. Mais qu'est-ce qu'on peut prévoir de la part du ministre André Lamontagne là, pour la fin de l'été, peut-être même la rentrée parlementaire?
Bien, dans un premier temps, moi, cet été, je me promène un peu partout sur le territoire du Québec, là, puis je vais rencontrer des agriculteurs là, dans différentes régions du Québec. Après ça, il y a le dossier là, de la taxation foncière agricole là, sur lequel je suis très engagé avec mon équipe depuis déjà plusieurs mois. Et puis, qu'on espère bien, là, l'objectif, là, c'est de déposer un projet de loi là, à l'automne 2019 pour aller de l'avant avec une réforme. Alors, je dirais que la première chose significative, là, c'est sur ce dossier-là là, qu'on travaille en priorité. Puis, si on peut ajouter à ça, écoutez, moi, j'ai lancé un chantier quand je suis arrivé au niveau de l'achat institutionnel de nos produits québécois. Alors, on fait beaucoup d'avancées dans ce dossier-là. J'espère être en mesure de faire des annonces là, d'ici les prochains mois. Et puis, écoutez, c'est ça, une large palette, si on veut, là, d'enjeux sur lesquels on travaille tous les jours. Et puis au bénéfice de nos agriculteurs. Là.
En parallèle à ce qui s'est passé avec Investissement Québec, la réorganisation de tout ça, est-ce qu'on peut penser que des plans sectoriels précis, vous allez dire que c'est une marotte de ma part, mais en ce qui concerne par exemple le secteur céréricole, est-ce que des choses peuvent venir quand même assez rapidement?
Bien, je vous dirais que le dossier céréricole, parce qu'on a pris des engagements à ce niveau-là, là, c'est un dossier qu'on travaille présentement. Ça implique le ministère de l'Agriculture, ça peut impliquer le ministère de l'Énergie, ça peut impliquer le ministère de l'Économie. Mais je peux vous dire, c'est quelque chose là, qu'on a dans notre assiette, là, puis qu'on veut certainement là, faire des avancées, puis ultimement d'intervenir, parce qu'on a quand même un engagement là, d'augmenter de façon importante la superficie céréricole au Québec.
Là. Je parlais de serre, mais il y a d'autres dossiers aussi, sectoriels, eux aussi. Là.
Bien, ce qui est important, M. Levac, là, c'est de s'assurer, nous, on appelle ça l'équipe économique bioalimentaire Québec, c'est de s'assurer là, qu'on soit un transformateur, qu'on soit un agriculteur, qu'on soit un céréricole. Quand on a un projet d'investissement, on a un projet au Québec, il ne faut jamais que ça tombe en quelque part dans une fente entre deux chaises. Il faut qu'on soit capable d'accueillir ces projets-là. Puis dans la mesure où ce sont des projets qui sont viables, puis qui sont porteurs, de les accompagner puis d'une façon efficace. Fait qu'avec le gouvernement, c'est ça qu'on s'applique. Mais avec mon collègue, c'est ça mon collègue M. Fitzgibbon de l'économie, tout de suite, ça faisait quelques semaines que j'étais en poste, puis déjà on a commencé à travailler une cellule ensemble pour s'assurer là, qu'on arrimait vraiment les efforts du MAPAC avec les efforts du ministère de l'Économie pour faire en sorte qu'on n'en échappe pas d'investissement puis qu'on est capable d'accompagner là, tous les projets qui sont porteurs sur le territoire du Québec. Là.
Merci, M. le ministre.
C'est bon, c'est un plaisir.
Revenons à la conférence des ministres. Ils avaient cette année fait des invitations, par exemple au président d'AgroPur. Monsieur Roger Massicotte, bonjour.
Bonjour.
Monsieur Massicotte, vous avez rencontré les ministres canadiens de l'agriculture et en tant que président d'AgroPur, vous avez voulu leur transmettre un message particulier. De quoi avez-vous parlé?
Premièrement, c'est la première fois qu'on a l'opportunité de parler à l'ensemble des ministres de l'Agriculture du Canada. L'ensemble des 10 ministres de l'Agriculture au Canada, Mme Bibeault qui était présente. Et c'est une opportunité pour nous de dire que c'est le temps. L'industrie, on passe à travers, pas une crise, mais il faut adapter notre situation au Canada, dans l'avenir, pour le futur, pour l'industrie laitière canadienne. C'est le temps de se mettre tout ensemble pour trouver les solutions pour bâtir une infrastructure solide, pérenne pour l'avenir de l'industrie laitière canadienne. Et quoi de mieux qu'une brochette de ministre de l'Agriculture pour passer ce message d'unification, de se fédérer ensemble pour trouver les solutions pour l'avenir.
Chez AgroPur, justement, vous êtes une entreprise, une coopérative canadienne maintenant.
On est une coopérative canadienne de 3200 membres dans 5 provinces où on a des installations dans 8 provinces au Canada. C'est une opportunité de leur dire que nous étions présents partout au Canada et on transforme 30 % du lait canadien. Et on est aussi du côté américain, nord-américain, le 5e plus grand transformateur fromager en Amérique du Nord. On a les connaissances pour trouver les solutions pour l'avenir de l'industrie laitière canadienne.
Et chez AgroPur, vous êtes depuis quelques années particulièrement orienté vers l'innovation, la recherche de nouvelles approches de marché, de nouveaux produits également. Et c'est ça là, que vous demandez au ministre. Et là, j'ose m'avancer en disant, vous demandez au milieu politique, eux aussi, d'innover un peu dans leur approche face au monde agricole et à des coopératives comme la vôtre.
Tout à fait en ligne. On a mis de l'avant Inno AgroPur chez AgroPur. Il y a une différente façon de faire de l'innovation. Et là, j'ai fait la demande à l'ensemble de la filière des ministres de mettre de l'argent dans l'innovation. Ça va être payant pour l'industrie laitière canadienne. Et nous autres, on est les instigateurs de ça chez AgroPur. Puis on est dans une économie sociale circulaire. On redonne à la société nos trop perçus par nos membres. C'est un très beau modèle d'affaires.
Monsieur Massicotte, merci beaucoup.
Merci.
Et de jeunes agriculteurs étaient aussi invités.
Je suis d'ailleurs très contente que plusieurs jeunes producteurs et productrices aient participé à la rencontre. Ils sont l'avenir de l'industrie et c'est très important qu'on écoute leurs perspectives de façon directe. Cet exercice a encore une fois démontré la valeur de la diversité autour d'une table. Leur participation a provoqué des discussions sur le virage numérique des fermes, la contribution des femmes, le bien-être et la santé mentale des producteurs et productrices et sur les défis de la relève.
François Enfield, de la ferme aux petits oignons.
À quel endroit, ça?
À Mont-Tremblant, dans les Laurentides.
C'est vous qui avez une ferme qui a fait et qui fait encore beaucoup jaser parce que c'est une ferme qui n'a pas une très grande superficie, mais que vous réussissez à rentabiliser.
Ben oui, on a 20 employés sur 5 hectares. On fait beaucoup de production en serre, évidemment, c'est très intensif. On vend directement aux consommateurs, beaucoup de produits à valeur ajoutée, certification bio et tout. Donc, valeur ajoutée, c'est notre créneau.
Et là, vous êtes en pleine saison, là?
Oui, j'ai réussi à m'absenter pour venir ici à Québec aujourd'hui.
Justement, vous êtes à Québec parce que vous venez de prendre la parole devant les ministres de l'Agriculture du Canada. Qu'est-ce que vous leur avez dit?
Bien, ils nous avaient invités. On était 4 agriculteurs jeunes du Canada à venir parler de technologie, de santé mentale, des femmes en agriculture. Et moi, je venais parler de la relève agricole et le développement durable en agriculture. Donc, j'ai parlé des pratiques qu'on fait sur la ferme, vraiment un témoignage sur qu'est-ce qu'on fait chez nous pour l'environnement, pour l'aspect social, la main-d'œuvre, la rétention de la main-d'œuvre, les conditions de travail, pour l'environnement, le sol, comment on fait pour respecter notre sol, diminuer la quantité de pesticides.
Tout ça, c'est dans un contexte où, justement, la préoccupation écologique, environnementale est de plus en plus présente et les milieux politiques y portent une attention plus forte, pourrait-on dire maintenant.
Oui, je pense que oui. Puis ils voient ça comme une valeur ajoutée. Puis c'est ça que je parlais aujourd'hui, c'est qu'on ajoute une valeur à nos produits en faisant quelque chose d'écologique. Donc, on essaie de le transmettre aux consommateurs, cette plus-value-là. Donc, il faut quand même du soutien pour développer le bio. Exemple, au Québec, ça va super bien, le bio. Là. On a doublé le nombre de fermes en 4 ans. C'est quelque chose que j'ai voulu dire aux autres ministres des autres provinces. Faites des politiques comme on a au Québec pour développer le bio, puis le reste du Canada pourrait suivre le Québec à cet égard.
Vous avez parlé de relève aussi. Vous êtes de la relève.
Non apparenté.
Oui. Commencez-vous à penser à votre relève?
Oui, ça, j'en ai parlé de deux façons. Premièrement, pour la durabilité de notre entreprise, durabilité économique, investir dans des REER plutôt que dans de la terre pour ne pas transférer le problème que nous, on a vécu aux prochains jeunes parce que les terres valent cher, les fermes valent cher. Fait que nous, on ne veut pas être obligé de vendre aux plus offrants quand on va prendre notre retraite. Fait que ça, il faut diversifier notre façon de financer nos retraites. Fait que j'ai parlé de ça, puis aussi de comment on pense éventuellement transférer progressivement l'entreprise à nos employés. On pense à des systèmes qu'on n'a pas mis en place encore, mais comment responsabiliser la main-d'œuvre, intégrer la main-d'œuvre dans la relève, puis la rétention de la main-d'œuvre pour en suivre aussi. Là.
Est-ce que vous avez des problèmes de recrutement de main-d'œuvre?
Toujours, surtout des problèmes de rétention. Recrutement, pour nous, c'est pas si pire, mais c'est difficile de trouver des gens qui veulent faire ça à long terme. Puis dans une entreprise complexe comme la nôtre, on peut pas se permettre trop de roulement. Fait qu'on investit beaucoup dans la formation, mais après ça, ça prend de la rétention.
C'est ça, parce que souvent, on forme des gens et lorsqu'ils sont formés, ben ils s'en vont sur le marché et c'est
ouais.
au plus offrant.
Oui, il y en a beaucoup qui viennent chez nous pour apprendre, mais c'est clair en partant que c'est pour partir leur ferme, donc c'est de passage. Puis nous, ben on contribue à leur formation, on redonne à la communauté, mais en contrepartie, on veut former des gens qui vont rester aussi.
La pérennité de votre entreprise, il faut y penser aussi.
Oui, la pérennité en dépend. Puis là, avec les implications qu'on a dans l'UPA, par exemple, dans l'AKP, dans plein d'associations, il faut qu'on puisse se libérer. Fait qu'on a une double motivation à pérenniser l'entreprise.
Monsieur Anfield, merci beaucoup puis bonne fin de saison.
Merci beaucoup, bonne fin de saison.
Ici Lionel Levac. Des propos du président d'AgroPure et du cofondateur de la ferme aux petits oignons ressort un appel à des politiques à la fois plus innovantes et mieux adaptées aux aspirations des agriculteurs et agricultrices, de même que de la société en général. Un consensus assez fort se dégage de cette conférence fédérale, provinciale et territoriale des ministres de l'Agriculture. Les ministres ont convenu de se réunir de nouveau avant la fin de l'année, surtout pour parler de sécurité du revenu. Au revoir.